Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, d'opinions avec les auditeurs. Et l'info avec Amandine tous les jours. Et quel plaisir de vous retrouver ce lundi. Bonjour Amandine.
Un plaisir partagé. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une petite fille qui appelle les gendarmes pour prévenir que son père est ivre au volant. Une enseignante agressée en plein cours. Les pourboires des taxis peut-être bientôt défiscalisés. Puis la couverture du tout nouvel Astérix, il sort dans 10 jours.
Les ascenseurs en panne, c'est un fléau qui empoisonne la vie de dizaines de milliers de Français. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qui se passe parfois dans les quartiers. Nous serons à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où 6 des 15 ascenseurs ne fonctionnent pas. Et puis je l'ai dit à 12h50, bon anniversaire Jean-Jacques. Je seul tous les jours, je marche avec Amandine. Nous marchons ensemble.
Bon, et tiens, la question du jour sur RTL.fr. 70 ans de Jean-Jacques Goldman, souhaitez-vous son retour sur scène, Pascal ?
Oui, mais il n'y a aucune chance.
Et voilà, vous dites oui en tout cas à 47%, non à 38%. Notre météo du jour avec vous, Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine, bonjour
à tous. C'est encore pas mal.
Eh bien non, c'est pas mal, effectivement. Je vois les images satellites, le soleil domine quasiment partout, il n'y a pas de précipitations. Bon, il y a toujours quelques exceptions, des brumes, des nuages bas qui ont du mal à se dissiper, là autour du centre, en Bourgogne notamment, il y a encore quelques nuages. Mais là aussi, on devrait retrouver de belles éclaircies en cours d'après-midi, peut-être un peu plus de nuages quand même près des frontières du nord-est, sans conséquence, et un zeste de Mistral et de Tramontane autour du golfe du Lion. Le tout en revanche avec des températures qui baissent lentement. Bah, c'est un peu normal là, au mois d'octobre. 15 à 19 degrés quand même dans la moitié nord, 19 à 21 dans le sud-ouest et encore 22 à 25 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec ce coup de chapeau. Coup de chapeau à cette petite fille de 11 ans seulement, et elle a sans doute sauvé la vie de son petit frère, de son père et peut-être d'autres. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
Cette petite fille n'a pas hésité à appeler les gendarmes en voyant que son papa était ivre au volant.
Et oui, samedi soir, le père et ses deux enfants sont en visite chez une connaissance à Baume-les-Dames dans le Doubs. On ne sait pas très bien ce qui s'y passe, mais il y a une violente dispute et le père décide de repartir. Problème, il est ivre. Les deux enfants sont terrorisés, mais la grande sœur ne se démonte pas. Elle appelle les gendarmes. La conversation se fait en chuchotant sur le siège arrière. Les gendarmes captent la situation, lui envoient un numéro pour continuer la conversation par SMS et tentent de repérer où peut être l'équipage grâce aux renseignements de la fillette qui leur communique le nom des panneaux. C'est un peu compliqué car elle ne connaît pas bien cette route, en plus il fait nuit, mais trois patrouilles se mobilisent et les gendarmes réussissent à intercepter la voiture vers Montbéliard juste avant l'autoroute, après 40 km de terreur pour les enfants. La mère finira par les récupérer, le père lui a fini en cellule de dégrisement avant des suites judiciaires. Il avait 1,96 g d'alcool par litre de sang.
Histoire incroyable et récit signé Samuel Goldschmidt. Merci à vous Samuel. L'actualité, c'est aussi cette enseignante agressée en plein cours à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne, c'était vendredi. La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, Guillemette de Franquet.
Oui, sur cette vidéo, on voit un jeune homme défier sa professeure en plein cours. Debout face à la porte de classe, il lui ordonne de se décaler pour pouvoir sortir.
Alors, comment poussez-vous, madame ? Voilà,
L'élève tire violemment la porte, sa professeure est projetée à terre. L'incident, filmé par un autre jeune, fait le...
Alors, petit souci technique avec ce sujet. On va retrouver Guillemette Franquet en Seine-et-Marne dans un instant à Comble-la-Ville, donc après l'agression de cette enseignante. Des plaintes vont être déposées. Après la publication du rapport Sauvé, alors que le président de la Conférence des évêques de France est convoqué demain au ministère de l'Intérieur, plusieurs personnalités appellent ce matin à la démission collective des évêques. Parmi eux, François Deveau, c'est le fondateur de l'association La Parole Libérée.
On n'a pas d'autre choix face à ces constats-là que de briser le système. C'est un petit peu à l'image du nazisme. On ne va pas pouvoir garder le nazisme et l'édulcorer. Il y a un mal intrinsèque à ce fonctionnement-là qu'il faut casser. On a laissé une petite semaine aux évêques pour essayer de réagir et c'est juste une catastrophe.
Ils sont tous responsables ?
Oui, à partir du moment où ils font partie d'un corpus qui détient le pouvoir et qui le maintiennent et qui refuse l'état de remise en question, bien évidemment qui porte toute la responsabilité de la problématique. Il va falloir des nouveaux bâtisseurs pour cette église parce que tout est à rebâtir. Il ne faut partir que de la foi et de l'évangile. tout ce qui a été construit par l'homme est à reconstruire entièrement.
L'appel de François Deveau, micro-RTL de Frédéric Perruche. La première réponse du professeur Dara est soupçonnée de viol et de maltraitance. Dans un communiqué, le gynécologue fait savoir qu'il conteste les accusations portées contre lui par plusieurs de ses patientes et assure qu'il s'en expliquera dans le cadre des enquêtes ouvertes contre lui. Une enquête pour viol sur mineur, notamment diligentée par le parquet de Paris.
Les pourboires des taxis et des VTC peut-être bientôt défiscalisés.
C'est en tout cas ce que propose un amendement qui sera examiné cette semaine à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est d'élargir la mesure prise pour les serveurs des hôtels-restaurants. Bruno Fouque est député MoDem du Haut-Rhin.
L'idée, c'est de venir en aide ponctuellement à une profession qui a extrêmement souffert pendant un an et demi, qui a vu ses pourboires se tarir depuis quelques années et qui a fait énormément d'efforts de service. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de donner un coup de main à cette profession qui, pour les taxis en tout cas, est une profession réglementée. Donc, elle ne peut pas évoluer sur ses prix. C'est redonner l'envie aux clients de laisser un pourboire. Donc, quand vous êtes client et que vous savez qu'en face, le chauffeur va avoir 100% de votre pourboire en pouvoir d'achat, vous incitez ce client à donner un pourboire plus facilement.
Bruno Fouque, député au micro RTL de Christophe Bourreau. Après le salaire des profs, Anne Hidalgo veut s'attaquer au temps de travail. La maire de Paris, candidate, on le rappelle, à la présidentielle, veut relancer le débat, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, en panne dans les sondages, Anne Hidalgo essaie de se relancer avec une nouvelle proposition choc, la réduction du temps de travail, un totem de la gauche. Écoutez-la, c'était hier soir sur France 3.
Aller vers une augmentation du temps de travail, c'est un contresens. Je vois bien que ce gouvernement, qui en fait est un gouvernement de droite, il ne s'en cache plus, ne veut pas poser ces sujets qui sont les sujets du progrès social.
Donc il faut les poser.
Moi, je serai et je suis la candidate et je serai la présidente de ce progrès social.
Alors le progrès social symbolisé par la semaine des 39 heures des années Mitterrand, la semaine des 35 heures des années Jospin, récemment remis au goût du jour dans la primaire écologiste, notamment par Sandrine Rousseau qui prône la semaine de 32 heures. Et c'est bien toute la difficulté d'Anne Hidalgo, reprendre pied face à la candidature de Yannick Jadot, s'imposer comme celle qui va pouvoir fédérer derrière elle. Le problème, c'est que jusqu'ici, elle n'a pas réussi à imposer ses thèmes dans la pré-campagne.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL, retour à présent à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, après l'agression, je vous le disais, de cette enseignante en plein cours. La scène a donc été filmée et postée sur les réseaux sociaux, Guillemette Franquet.
Oui, sur cette vidéo, on voit un jeune homme défier sa professeure en plein cours. Debout face à la porte de classe, il lui ordonne de se décaler pour pouvoir sortir.
Allez, comment poussez-vous, madame ? Voilà, poussez-vous.
Vous êtes à l'école ? Et ne me touchez pas, Yacine !
L'élève tire violemment la porte. Sa professeure est projetée à terre. L'incident, filmé par un autre jeune, fait le tour des réseaux sociaux. Ce matin, la directrice des services de l'éducation nationale a rencontré tous les enseignants du lycée. Valérie Debuchy dit apporter son soutien à la professeure bousculée.
Elle va être accompagnée au commissariat pour porter plainte. Le proviseur également va porter plainte pour l'établissement, porter plainte contre l'élève, mais également plainte pour les élèves qui ont tourné les vidéos et également qui les ont diffusées sur les réseaux.
Le jeune agresseur a été suspendu. Pour le moment, il n'a plus le droit de rentrer dans l'établissement. Une cellule psychologique a été mise en place dans le lycée.
Guillemette Franquet à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, pour RTL.
Voilà qui va peut-être convaincre les derniers réfractaires, le vaccin contre le Covid est efficace à 90%.
Et ce n'est pas nous qui le disons, mais une étude française menée sur 22 millions de personnes. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
C'est simple, c'est la plus vaste enquête menée dans le monde.
Oui, les chercheurs d'Epiphare ont croisé les données de deux gigantesques cohortes. D'un côté, 11 millions de Français de 50 ans et plus, vaccinés entre fin décembre pour les plus âgés et fin juillet de cette année. Et de l'autre, 11 millions de Français, même tranche d'âge, et non vaccinés. Résultat donc, ceux qui ont reçu leurs deux doses ont 9 mois moins de risque d'être hospitalisés et 9 fois moins de risque de décéder, et ce à partir du 14e jour après la dernière injection. Cela confirme donc la très grande efficacité des trois vaccins étudiés, Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Janssen, autorisé plus tardivement, n'a pas été inclus. Autre observation très encourageante, récente, la protection immunitaire se maintient dans le temps et elle ne faiblit pas sur la période de suivi qui va jusqu'à 5 mois pour l'instant. Seul petit bémol à cette étude concernant le variant Delta, devenu majoritaire en France début juillet. Les chercheurs manquent de recul pour évaluer l'impact réel de la vaccination sur les hospitalisations. L'étude va donc se poursuivre pour intégrer les données d'août et de septembre.
Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Vous étiez plus de 8 millions hier soir sur M6 pour la victoire de l'équipe de France en finale de la Ligue des Nations. 8 100 000 pique à 10 millions même, et une victoire donc 2-1. Et Nicolas Georgerot, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont clairement porté cette équipe.
Oui, ces deux joueurs ont porté l'équipe de France cette semaine, symbole de ces bleus capables de frapper à tout moment, de renverser ces situations bancales. Le bilan chiffré parle pour eux, 4 buts au total, 2 passes décisives supplémentaires pour l'attaquant du PSG et pour Benzema, des buts qui ont porté l'espoir, qui ont sonné la révolte. Didier Deschamps, heureux pour l'avant-centre du Real Madrid qui remporte son premier trophée avec l'équipe de France.
Karim est un joueur essentiel, il a prouvé sur ces deux matchs-là, il a une qualité qui saute aux yeux, il est dans cette rage de vaincre, de gagner, il est là pour ça et c'est quelque chose qui est très communicatif.
Ne pas oublier Griezmann, plus discret cette semaine, mais à Lyon, le mois dernier contre la Finlande, son entente avec Benzema avait sorti les bleus de l'ornière. Ça fonctionne plutôt par duo que trio offensivement, mais ça suffit par moment à sauver les bleus.
Nicolas Georgerot pour RTL. Prochain match des Bleus en novembre, donc avec la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera face au Kazakhstan le 13 et à la Finlande le 16 novembre. Et puis ça y est, on sait à quoi ressemble la couverture du nouvel Astérix. Astérix, c'est le griffon. On y voit Astérix juché sur un poney. À l'arrière, Obélix qui tente de faire descendre Idéfix qui est lui perché sur un totem de griffon, cet animal à tête d'aigle et au corps de lion. Tout ça dans un paysage enneigé, un pays imaginaire, comme nous l'explique Jean-Yves Ferry, c'est le scénariste de ce 39e album.
On va aller tout droit vers les confins de l'Europe de l'Est. Une Europe de l'Est un peu fantasmée, entre la Roumanie, la Hongrie, la Pologne. J'y place là le peuple des Sarmates. Et on va dire qu'on va y retrouver des éléments du folklore slave. À chaque album, il faut trouver un thème en résonance avec aujourd'hui. Là, c'est effectivement plutôt le côté spirituel. Et aussi la manière dont les Romains, donc nous-mêmes en fait, on appréhende la nature en général.
Jean-Yves Ferry au micro RTL de Monique Younes, sorti de ce nouvel album d'Astérix, Astérix et le Griffon, donc le 21 octobre dans 10 jours.
Nos deux débats, ce sera à 12h50, Jean-Jacques Goldman, il y a un mystère Goldman, pourquoi il ne chante plus, et puis ses ascenseurs en panne, et ça peut peut-être vous étonner que nous parlions de cela, mais c'est un fléau qui empoisonne la vie de dizaines de milliers de Français, et on vous emmènera dans un quartier de Bondy dans une seconde, à tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Vous voyez, je suis maman de 4 enfants, je suis enceinte, je monte le 7e étage à chaque fois, tous les jours comme ça, c'est pas évident.
Il y a énormément de personnes âgées, c'est des gens qui sont immobilisés chez eux. Quand l'ascenseur est en panne, vous pouvez être sûr, pendant une semaine, ils sortent pas. Il y a même des gens qui m'ont dit, on a peur de sortir et de revenir chez nous trouver l'ascenseur en panne.
Ces deux mères de famille vivent à la Sablière, à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Sur les 15 ascenseurs de cette cité, 6 ne fonctionnent pas, 6 sur 15. Et le phénomène ne touche pas seulement Bondy. Selon l'association Exigence Ascenseurs, qui regroupe la majorité des logements sociaux d'Île-de-France, chaque ascenseur de son parc tombe en moyenne en panne 10 fois chaque année, 10 fois par an. Comment l'expliquer? Y a-t-il des territoires abandonnés? C'est notre premier débat aujourd'hui dans RTL Midi. Bonjour Sabine Rubin.
Oui, bonjour.
Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Cette cité fait partie de votre circonscription. Ces chiffres, j'imagine, ne vous surprennent pas et vous font bondir?
Oui, c'est le cas de le dire. Depuis 2017, déjà, d'ores et déjà, en décembre 2017, il y a ma collègue Clémentine Autain qui interpellait le gouvernement à propos de ce fléau, parce que c'est un véritable fléau. Moi-même, je l'ai vécu, donc dans des immeubles de 12, 13, 14 étages, ces pannes d'ascenseur sont récurrentes.
Mais que peut faire le gouvernement? Vous disiez, on les interpelle depuis 2017. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Bon, alors, pour ce qui est plus précisément de la ville de Bondy. Je sais que la ville de Bondy, ou en tout cas en l'occurrence Bondy Nord, plus spécifiquement, il y a 3 bailleurs. Voilà. Alors, c'est aux bailleurs, finalement, de prendre en charge l'entretien de leurs immeubles, des habitations.
Mais ces ascenseurs sont vétustes. La réalité, c'est quoi ? C'est parce qu'ils sont mal entretenus ou parce qu'ils sont vétustes ?
Les deux.
Donc, faudrait changer, par exemple, pourquoi pas d'ascenseur ?
Selon les bailleurs, c'est différent. En tout cas, vous me parlez de Bondy. Selon les bailleurs, c'est différent. Je sais que Seine-Saint-Denis Habitat, lui, a refait à neuf tous les ascenseurs du parc de Bondy.
Et il n'y a plus de soucis ?
Il y a moins de soucis quand les ascenseurs sont refaits à neuf.
S'ils sont neufs, il ne devrait plus avoir de soucis du tout.
Après, il y a d'autres bailleurs sur Bondy Habitat, par exemple. Il y a un manque d'entretien récurrent, voilà, parce que les bailleurs sont aussi sous pression. Donc, il y a un manque d'entretien des bailleurs avec des dégradations des ascenseurs récurrents, voilà. Donc, selon les bailleurs, il y a eu la possibilité soit de réinvestir et de faire de remettre à neuf les ascenseurs. Et dans ces cas-là, ça fonctionne bien, mais vous savez que les ascenseurs, s'ils ne sont pas régulièrement entretenus, et ça aussi, l'entretien a un coût, et ce coût, justement, les bailleurs sont plus ou moins capables de le prendre en charge, eh bien, en fonction de ce manque d'entretien, il y a plus ou moins, effectivement, des problèmes qui sont vraiment récurrents.
Pour que les choses soient claires, Madame Rubin, quand un ascenseur tombe en panne, c'est parce qu'il est ou mal entretenu ou il est vétuste. Il n'y a pas une mauvaise intention de certains de saccager ces ascenseurs dans ces immeubles-là.
Ce ne sont pas les gens qui saccagent le fonctionnement de l'ascenseur.
Non, parce que vous m'avez dit quand les ascenseurs sont réparés, il y a encore des problèmes, donc je ne comprends pas pourquoi.
Non, je ne vous ai pas dit ça.
Ah bon, j'ai mal compris. Pardonnez-moi.
Non, tout l'inverse. Je dis que
Donc une fois qu'ils sont réparés, refaits à neuf, il n'y a plus de soucis.
Appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat, voilà, a été refait à neuf, voilà, et qu'il n'y a plus de soucis.
D'accord.
Maintenant, refaire à neuf, c'est bien. Entretenir, c'est mieux.
Et juste en un mot, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remplacer tous ces ascenseurs, pour forcer les bailleurs sociaux à le faire, puisque j'imagine que c'est ce que les habitants souhaitent. Est-ce que vous souhaitez aussi
Nous invitons les habitants à se mobiliser, comme ils le font d'ailleurs, puisqu'il y a Exigence Ascenseur dans 93 et d'autres mouvements qui se sont créés. Donc nous exigeons qu'ils fassent effectivement pression sur les bailleurs et nous les accompagnons dans cette... Nous les accompagnons dans cette démarche.
Eh ben merci beaucoup, Madame Rubin, et vous avez parfaitement raison. C'est un véritable fléau, et les gens qui vivent dans ces ascenseurs, c'est une contrainte. C'est même plus qu'une contrainte, d'ailleurs. C'est un obstacle à leur vie qui est impossible. Et il faut trouver une solution. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On parle de Jean-Jacques Goldman dans une seconde avec Steven Pellery. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Forcément, vous l'aurez reconnu, Jean-Jacques Goldman, qui fête donc aujourd'hui ses 70 ans. Pas de nouvel album depuis 20 ans et pourtant, il se vend toujours aussi bien. Bonjour Steven Pellery.
Bonjour à tous.
Merci de nous accompagner à nouveau. Les Français écoutent donc encore Jean-Jacques Goldman.
Ben oui, il touchera environ 2 millions d'euros de droits SACEM par an, ce qui est quand même joli. Ça veut dire que ce chiffre est un, constant, et que deux, il est toujours aussi programmé à la radio, tout comme les tubes qu'il a écrits pour d'autres, évidemment. Son absence médiatique a créé d'une certaine manière une forme de mythe autour de son répertoire. Un catalogue est assez restreint, au fond 9 albums studio seulement, dont 2 au sein du trio Frederick's Goldman Jones. Ça fait 115 chansons environ, et pourtant une mine d'or disponible sur les plateformes streaming depuis 2 ans maintenant. Chez Deezer, sa discographie a augmenté de 11% en stream depuis 2 ans. Ça veut dire que ça n'a pas été un feu de paille, cette arrivée, c'est constant. Chez le géant Spotify, 1 200 000 auditeurs l'écoutent chaque mois, ce qui le place dans le haut du panier des artistes francophones les plus populaires. Nicolas Duroy est directeur éditorial de Spotify France. Il détaille en exclusivité les chiffres secrets de Goldman.
Alors on a exactement un équilibre, 50% d'hommes et 50% de femmes auditeurs et auditrices sur Spotify. 30% des auditeurs de Jean-Jacques Goldman sur Spotify ont entre 18 et 27 ans, et puis 70% ont plus de 28 ans. Mais alors, un autre chiffre extrêmement intéressant, c'est que les pays étrangers à la France représentent plus d'un tiers des écoutes de Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire qu'après la France, c'est la Belgique, c'est la Suisse, c'est le Canada, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est la répartition des écoutes dans la semaine, où on remarque que les auditeurs de Spotify Spotify écoutent Jean-Jacques Goldman beaucoup le samedi. C'est familial et ça se transmet. Et le samedi soir, où les auditeurs font la fête, un Jean-Jacques Goldman, ça fait toujours plaisir à ces moments-là.
C'est amusant ces statistiques.
Eh ouais. Écouté par autant d'hommes que de femmes transgénérationnelles, un cas unique, Goldman reste un patron de la chanson.
Est-ce qu'on sait s'il écrit toujours des chansons ?
Alors, il continue à en écrire des chansons, notamment pour Patrick Fiori, notamment pour Les Enfoirés ces dernières années. Eh bien tiens, on peut écouter Patrick Fiori qui est l'un des fidèles de la sphère, de la galaxie Goldman. Eh bien, Patrick Fiori a eu une nouvelle chanson de Goldman sur son album l'an dernier.
Ouais, je suis un privilégié. Ouais. Quand il écrit « Nous étions des princes, nous étions rois, sais, mais nous ne le savions pas ». Quand il écrit encore ce genre de chanson-là et qu'il me l'envoie et qu'il me dit « Je t'écris un truc un peu particulier », il ne me dit pas pourquoi, il ne me dit pas comment. Je reçois une maquette avec sa voix en règle générale, que je garde précieusement et que j'efface. Et je me mets derrière le micro et je me dis « Mais c'est pas possible, quoi. Je chante un monde envolé. » C'est-à-dire qu'il a tout raconté. Il est encore là, Jean-Jacques. Oui, je l'appelle sur mes projets. Je lui demande des conseils. Il y en a qui vous saoulent 4 heures, mais lui, en 4 phrases, il vous a tout expliqué. Mais surtout, sans aucune prétention et sans aucun jeu ou fait. C'est toujours « Essaie, tu verras, tu trouveras. »
Je pleure de nos rendez-vous mélangés.
Ne le savions pas, l'une des dernières chansons écrites et composées par Jean-Jacques Goldman. Goldman qui n'est pas allé en studio depuis 10 ans à son ultime enregistrement. C'était une reprise de ça, de Zazie, avec Claire Kem. C'était pour le Sid Action en 2011.
Bon, mais c'est quoi sa vie, son quotidien ?
Eh bien, mystère, hein, Jean-Jacques Goldman est un retraité discret. Il vit à Londres depuis maintenant 5 ans. Il ferait toujours beaucoup de footing. Tous ses proches disent la même chose. Il n'a pas vu grandir ses 3 premiers enfants autant qu'il l'aurait souhaité. Il veut donc profiter de sa famille, de son épouse, de leurs 3 filles, Maya, Kimi et Rose, toutes les 3 ados désormais. Papa, un boulot à temps plein, selon Céline Dion, à qui Goldman a offert ses plus grands succès.
Je pense que Jean-Jacques est très 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 ancré au sol du cœur. Il est père de famille, c'est son plus grand succès, j'en suis sûre. Je le connais assez bien, il est très heureux. On peut dire que c'est un magicien. Je lui ai demandé à maître reprises de m'écrire encore un album, mais effectivement on a tout dit.
J'ai écouté ce matin Michael Jones et vous lui posiez la question... Pourquoi est-il sorti de scène ? Et il ne savait pas répondre. Ah non, il dit « j'ai pas de... »
Il n'a pas de réponse.
J'ai pas de réponse, mais est-ce qu'il va revenir ?
C'est comme très peu probable. Le journal Le Progrès a révélé il y a quelques jours à peine que Jean-Jacques Goldman avait répondu à une fan jurassienne qui lui avait écrit, qui lui demandait tout simplement « Est-ce que vous allez un jour faire une tournée d'adieu ?» Réponse « Je suis triste de la tristesse que cette absence peut causer, mais je sais ce que la scène exige d'implication, d'énergie, de désir. Je n'en suis plus capable et il me semble que ce serait trop difficile émotionnellement aussi. » Bah, écoutons Michael Jones, l'un de ses plus fidèles amis, guitariste, compositeur aussi. Hein. Eh bien, Michael Jones nous le rappelle aussi que Jean-Jacques Goldman, eh bien, vraiment, il n'a pas aimé vraiment les tournées. C'est pas quelque chose qu'il a aimé dans sa vie.
Sa passion, c'était surtout la création, l'écriture. Jean-Jacques n'arrêterait jamais d'écouter la musique. Ça fait partie de son ADN. Il a toujours été au courant du dernier truc. Là, j'ai reçu, il y a quoi, 3 jours, il m'a envoyé un lien sur un groupe. Il écoute vraiment tout ce qui se passe musicalement.
Vous avez parlé ensemble de cet anniversaire, de ses 70 ans. Comment il le vit ?
On ne part jamais de nos anniversaires. Je pense que c'est plus douloureux qu'apaisant.
Vous écrivez qu'aujourd'hui encore, vous n'arrivez pas à vous expliquer pourquoi Jean-Jacques a décidé d'arrêter la scène.
Ah ben non, moi j'en ai aucune idée. C'est sa décision et je le respecte.
Vous espérez que Jean-Jacques revienne d'une manière ou d'une autre un jour où ça vous est égal ?
Tous ceux qui ont travaillé avec Jean-Jacques rêveraient de repartir sur la route avec lui. Tellement c'était génial. Donc si je disais que je m'en foutais, ça serait un mensonge.
Michael Jones se raconte dans Mes plus belles chances aux éditions Robert Laffont et cette citation « Et tant pis si la foule gronde, si je tourne pas dans la ronde, papa quand je serai grand, je sais ce que je veux faire, je veux être minoritaire ». Il chantait ça Jean-Jacques Goldman en 82, bah, il n'avait pas menti.
Bah oui, être à part. Merci beaucoup Steven. On rappelle la journée spéciale Jean-Jacques Goldman qui se poursuit. 21h bonus track spécial et puis vous restez avec Pascal.
Oui, vous allez rester. Alors je ne sais pas si c'est à 13h ou à 14h, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. En même temps, on a envie de le revoir sur scène. Mais je trouve que c'est tellement beau qu'il ne revienne jamais, que le mythe ne soit pas écorné, que d'une certaine manière, je suis partagé.
Mais un artiste, Jean-Jacques... c'est sur scène quand même d'abord.
Mais oui, mais bon. Jean-Jacques Goldman est fasciné par Jean Sablon, qui était un grand chanteur
qui avait inventé
le micro dernier, et qui est parti sans jamais rien dire. Il raconte ça, Michael Jones, dans son livre. Un jour, Jean-Jacques lui avait dit autour d'un repas qu'il avait trouvé ça élégant, partir sans rien dire.
Ouais. Vous connaissez Jean Sablon ?
Non,
Jean Sablon, c'est le premier chanteur qui a chanté avec un micro. Et il chantait « Vous qui passez sans me voir ».
Ah, mais je connais cette chanson.
Je vais vous faire découvrir ça. Bonsoir. Ouais. Mais alors, Jean Sablon, j'ai que Steven Bellery cite Jean Sablon. Je pense que Jean Sablon, il a arrêté de chanter en 50 ou en 55.
Ouais. Non, mais il est très fort.
C'est mes grands-parents. Alors que Jean-Jacques Goldman que vous entendez là, c'est vraiment c'est notre génération en plus. C'est terrible. On avait 20 ans au climax.
Pas moi.
Parlez pour vous, hein, quand même.
Excusez-moi.
On n'est pas tout à fait de la même génération.
12h59, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes.